le journal des auditeurs sur Africa numéro 1 avec Eugénie Dieki.
Aujourd'hui, jeudi 30 juin 2011, la RDC célèbre le 51e anniversaire de son indépendance. C'est l'occasion de parler de l'état de cet immense pays aux richesses immenses, énormes. C'est le moment également de parler de la paix qui tarde à s'installer, surtout dans l'est du pays. Pourquoi cette situation perdure-t-elle? Nous parlerons également de cette marche qui a commencé aujourd'hui. Elle est prévue pour 15 jours et c'est pour témoigner contre les violences et surtout les viols faits aux femmes et aux hommes. Et cette marche, donc, je vous le disais, démarre aujourd'hui à Paris et se terminera à Bruxelles, en Belgique. Nous évoquerons également l'ouverture ce jour à Malabo, en Guinée équatoriale, du sommet de l'Union africaine avec pour thème la jeunesse africaine. Alors que faut-il attendre de ce sommet? Un sommet dont le dossier libyen sera présent dans tous les esprits. Vous pouvez réagir en direct ici et maintenant au 01 55 07 58 00. Et si vous appelez de l'étranger, 00 33 1 55 07 58 00.
D'accord, pas d'accord, participez au JDA pour faire bouger les choses.
Oui, bonjour amis du JDA.
Oui, bonjour, je m'appelle Djibril et
bonjour Richard, bonjour Eugénie.
Informé sans déformer, jugé sans passion, le journal des auditeurs pour faire bouger l'Afrique.
Alors vous êtes congolais de la RDC, vous aimez votre pays, vous êtes africain, vous êtes ici en France. Quel est selon vous l'état de cet immense pays aux richesses énormes? J'attends vos réactions. Voici celles que nous avons recueillies sur notre répondeur.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, bonjour les amis de JDA. Nous sommes le 30 juin. Voilà, il y a quelques années, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo accède à l'indépendance. Mais quelle indépendance? Alors la question, sommes-nous indépendants aujourd'hui? La réponse est simple. Non, nous dépendons de l'extérieur, sur le plan politique, sur le plan social. Voilà. Alors, que faisons-nous et qu'allons-nous faire pour recouvrir l'indépendance? C'est ça la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Avec quel dirigeant? Quand on voit le tripatouillage de la loi électorale, quand on voit comment les états-majors se préparent à spolier davantage le peuple congolais, il y a lieu de se poser des questions sur cette indépendance. Ils vont commémorer à Kinshasa l'indépendance dans un pays labiné, dans un pays par terre, la crise qui bat son plein, la misère est à fleur de peau, à fleur de peau. Alors, l'indépendance, ben, l'indépendance de quoi? De la justice? Eh ben non, nous avons vu le procès chez Léa. Et voilà, le but de mon appel aujourd'hui, c'est ça. C'est à marge de cette commémoration de l'indépendance, de poser la question aujourd'hui, comment les autorités ont géré cette affaire chez Léa. Voilà, simulacre de justice, parodie de justice, déni de justice. Voilà.
Alors, compatriotes, RDC est attaqué par l'épidémie de choléra. Ceux qui connaissent l'épidémie de choléra ne pardonnent pas. Vaut mieux avoir le sida que le choléra. Choléra dure que 22 ou 3 habitants, c'est fini, l'homme est parti et puis les entourages aussi contaminés. On parle de 50 morts, tantôt 80. Vous voulez bien intervenir dans vos actes pour contribuer au combat de cette épidémie. Merci, c'est votre confrère, Madame Bako.
Le Congolais. Zaïrois, on a assez pleuré, et vous qui vivez à l'Occident, on a assez pleuré de viols de nos mamans, de viols de nos nièces, de viols de nos parents, et surtout de viols de nos frères, de ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est de la République démocratique du Congo, tout comme dans la capitale. Chers frères, sœurs, ce qui va se passer le 30 juin, ça sera un jeudi, jusqu'au 14 juillet, à Bruxelles, c'est première fois au monde qu'un peuple se réunisse pour pleurer de ce genre d'exactions. Chers frères, sœurs en congolais, là où vous êtes, j'ai dit si vous ne travaillez pas, retrouvons-nous tous à partir des 10h au Trocadéro, aux places de la Liberté, là où partira notre marche. Chers frères, sœurs en Christ, vous aussi, mettez-vous debout, retrouvons-nous au Trocadéro pour dénoncer ce qui se passe chez nous. Merci.
01 55 07 58 05 ou 00 33 1 55 07 58 05 si vous appelez d'Afrique ou d'ailleurs.
Lancy Coco, bonjour.
Bonjour Madame Dieki.
Je vous remercie de nous accompagner dans ce JDA. Vous êtes essayiste, acteur politique franco-congolais. Alors en ce 51e anniversaire de l'indépendance de votre pays d'origine, quel est votre sentiment?
Oui, la personne qui a parlé tout à l'heure au début a résumé la situation. Hein. Moi je ne parlerai pas d'indépendance, je parlerai plutôt des reconnaissances internationales. Et ceci dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que cela passe par plusieurs voies, par plusieurs canaux. On va commencer par les changements ou disons mieux l'évolution des mentalités. À commencer aussi par l'image que les Congolais, c'est que les Congolais veulent faire réellement de leur pays. Mais il y a aussi une vraie culture politique à acquérir pour faire en sorte que ces pays si immensement riche, qui occupe une position géopolitique extraordinaire, puisse enfin, 50 ans après, pouvoir émerger. Et c'est là, on a vu depuis 1960 aujourd'hui, ce pays a toujours problème. Donc il y a un problème dans la gestion de ces pays et il faut que les Congolais commencent par s'en prendre en main pour essayer d'instaurer un autre système et d'orienter leur pays différemment en ce début du troisième millénaire.
Alors parlons justement de la situation des droits de l'homme dans votre pays d'origine. Donc la RDC, à travers le procès d'un militant chevronné des droits de l'homme, Floribert Chebeya, donc fondateur de l'ONG La Voix des Sans-Voix, son procès s'est achevé, le verdict est tombé le 24 juin dernier. On peut dire qu'il y a eu des condamnations. Alors moi, ce qui m'inspire déjà, ce qui me parle, me choque, pour tout vous dire, c'est que ce soit un procès où des policiers sont impliqués. Enfin, ce sont des policiers assassins de Floribert Chebeya, des policiers donc assassins.
Ça montre tous les problèmes que rencontre aujourd'hui la République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'absence de l'État, puisque l'armée et la police représentent l'État, tout ce qui concerne la sécurité, mais aussi la faillite de la justice, puisque dans un pays où l'impunité est devenue une sorte de permis qui autorise les nantis, les proches du pouvoir ou certaines personnes par rapport à leur situation sociale d'avoir de l'influence sur d'autres, il faut quand même reconnaître que le procès a eu lieu. Mais maintenant, et vous avez parlé des condamnations, moi ça me pose problème. Ça me pose problème dans la mesure où il y a quand même des condamnations à mort. Or, quand on a vu le déroulement de ces procès, quelqu'un parlait des simulacres des procès, on sait très bien qu'il y a des gens qui ont porté les chapeaux. Et dès lors que les gens portaient des chapeaux, condamnaient les gens à mort. Et si on apprend un jour qui était les responsables, les véritables responsables, ça pose problème. Je suis pour la condamnation à perpétuité, mais pas à mort. Oui. J'ai toujours été partisan de l'abolition de la peine de mort. Mais là, vraiment, on sait très bien qu'on a condamné. Peut-être il y a des gens qui sont concernés par ces procès, mais il y a aussi des gens qui sont là qui pour épargner l'arrestation ou la condamnation de certains dirigeants.
Oui. Alors, dans ce procès, quatre policiers condamnés à mort, un à perpétuité, ils ont fait appel, hein. Donc, la partie n'est pas terminée pour cette ONG, donc la Voix des Sans-Voix. Parlons un peu des familles qui ont été dédommagées. Qu'est-ce que vous en pensez, Lancy Coco?
De la justice, hein, et d'ailleurs, puisque vous en parlez, je sais que nous avons toujours demandé par rapport aux violences sexuelles, il faut qu'il y ait justice. Dès qu'il y a justice, il faut qu'il y ait condamnation, il faut qu'il y ait dédommagement. C'est ça le principe même classique. Or, aujourd'hui, on voit que la RDC privilégie l'impunité au prétexte que pour des raisons de sécurité ou de la paix. Mais c'est quand même surprenant que dans un pays où l'État est censé éviter les injustices, les violations des droits fondamentaux, cet État-là même plébiscite l'impunité pour qu'il n'y ait pas poursuite. Donc dès lors qu'il commence à y avoir des dédommagements, je ne vais pas dire que c'est une mauvaise chose. Au contraire, il faut qu'il y en ait encore davantage. Et Dieu sait qu'il y a, il en faut.
Oui. Alors, pour rappel, la Cour de Séan a alloué des dommages et intérêts de l'ordre de 50 000 dollars en francs congolais pour les épouses Chebeya et Fidel Bazana, 35 000 dollars pour chacun des fils de Chebeya et Bazana, ainsi qu'à leurs frères, et 11 000 dollars à l'ONG, donc la Voix des Sans-Voix. On dit également que la disparition du chauffeur de Chebeya n'a pas été considérée comme assassinat par la cour militaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais c'est un principe juridique, dès lors qu'on n'a pas les corps,
oui,
on ne peut pas dire qu'il y a assassinat ou il y a mort d'homme. Et à partir de là, on veut se cacher, se retrancher derrière ce dispositif juridique. Mais est-il que, comment ça se fait que celui qui était avec lui, le corps a été retrouvé et pas son corps? Bon, donc je ne suis pas à la place des enquêteurs, mais il doit quand même ouvrir... un procès contre X pour essayer d'en savoir davantage.
Oui. Alors, du côté de la défense, hein, on se félicite de l'acquittement de trois policiers et on considère les condamnations prononcées comme des erreurs judiciaires ou pire, un sacrifice de bouc émissaire pour l'opinion publique.
C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. On condamne certaines personnes pour protéger des nantis ou des caciques du gouvernement. Et c'est pour cela que je ne suis pas pour la peine de mort, parce que quelque chose me dit qu'il y a des gens qui sont condamnés pour montrer l'exemple, pour montrer que l'affaire a été traitée dès lors, alors qu'on protège les véritables coupables. Et dans ces cas, je suis dans le doute, il faut acquitter. Et dans ces cas, je pense que s'il fallait qu'il y ait condamnation, peut-être à perpétuité, et un jour on pourra réouvrir les dossiers quand il y aura d'autres faits nouveaux. Alors que si on tue ces gens-là, on ne pourra plus les ressusciter. Donc je ne suis pas forcément pour le verdict qui a été rendu.
Restez avec nous, Nancy Coco. Jean-Henri Kinda, vous souhaitez intervenir, bonjour.
Oui, bonjour Madame Vieki.
Je vous écoute.
Voilà, je voudrais d'abord... souhaiter, si cela est nécessaire, au peuple congolais, une joyeuse fête de l'indépendance. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en laissant un message ce matin, est-ce que nous avons affecté cette indépendance aujourd'hui quand on voit dans l'état dans lequel le pays se trouve? Et voilà, ce qui nous amène d'ailleurs à parler de ce simulacre de procès où l'on condamne de lampiste, et que les gens qui ont commandité, les gens qui ont perpétré ce meurtre, ou ces meurtres, sont encore en liberté jusqu'à aujourd'hui, parce que nous les connaissons, d'opinion publique alors. Voilà, et ce qui nous amène, puisque bon là, la justice s'est passée, soi-disant, pour les joséphites, ce qui nous amène au deuxième procès que nous attendons tous, c'est l'assassinat lâche de Armand Tongolou. Nous attendons ça avec impatience. Et là, en ce jour de l'indépendance, j'appelle les peuples congolais, tous, autant que nous sommes, à se lever comme un seul homme, à écrire, à inonder de boîtes aux lettres des gens, des amis du Congo, à écrire au CPI, donc partout à écrire pour que justice passe pour Armand Tongolou, pour que nous ayons un pays, parce que quand ils sont arrivés en 97, ils nous ont ramené un état de droit, pour que cet état de droit-là soit effectif. Parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un qui a soi-disant lapidé le président de la République et ne pas vouloir aujourd'hui délivrer ne fût-ce que l'acte de décès à la veuve. Et ça, en ce jour de l'indépendance, j'appelle le peuple congolais à réfléchir sur ça. Je ne vois pas pourquoi nous devons, moi-même, en tant qu'élu d'origine congolaise, j'ai été invité à l'ambassade du Congo ici. Mais je n'irai pas. Et je fais savoir à la personne qui m'a contacté que je ne peux pas venir, moi, en tant que Congolais. Parce que je suis Congolais. Comme on dit chez nous, un condamné qu'on jette dans le feu ne deviendra jamais crocodile. Je suis français, certes, mais je reste Congolais dans l'âme. Et je ne peux pas aller là-bas festoyer alors que le peuple est par terre. Je viens de passer 4 jours à Kinshasa. Cet état de droit. Mais on cherche partout cet état de droit. On cherche partout les réalisations de M. Kabila. Partout où il y a embouteillage, pas d'eau, pas d'électricité. On vient de voir ce qui se passe au Sénégal. Ils se sont levés comme un seul homme parce qu'il n'y a pas d'électricité. Chez nous, il n'y a pas d'électricité. Je viens de perdre un maître cher. Donc voilà pourquoi je suis allé aux enterrements, pour son enterrement. Il était dialysé. Et pendant son dialyse, l'électricité s'est coupée. il en est mort. Voilà le pays qu'on nous vend. Et ces gens-là, ils sont là, ils vont passer. Parce qu'ils ont truandé la loi électorale. Ils vont passer. Pour quel pays? Bon Dieu, pour quel pays? Et c'est vraiment mon coup de gueule en ce jour de l'indépendance. Moi, je suis né avant l'indépendance. J'ai grandi pendant qu'il y avait encore l'État qui tournait un peu dans ce pays-là. Aujourd'hui, ben, c'est un pays, c'est le chaos, le total, total.
Merci, Jean-Henri Kinda.
Merci.
Lancy Coco, c'est à vous que je donne le mot de fin avant qu'on aborde le deuxième sujet de ce JDA. Donc, il y a une marche qui commence aujourd'hui, donc Paris-Bruxelles, qui débute ce jour, je l'ai dit, et qui se veut un témoignage aux yeux du monde entier contre les violences et particulièrement le viol massif pratiqué dans l'est de la RD Congo. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'une part, j'ai assisté au départ de cette marche de la place de Trocadéro. Je me suis arrêté au niveau des Champs-Élysées pour rentrer chez moi et répondre, participer à votre émission. Et je pense que ce n'est pas par hasard qu'on a choisi la date du 30 juin qui est supposée être la date de l'indépendance pour pouvoir dénoncer ces violences sexuelles faites notamment aux femmes. Et c'est une chose qui ne date pas de maintenant, qui dure et qui ne cesse de perdurer. Il faut savoir qu'il y a par jour au moins 40 viols recensés des femmes congolaises et au moins 1000 viols recensés par mois. Et on ne peut pas dire que l'État congolais, ou les personnes, l'État, il n'y a pas d'État, que le gouvernement congolais reste statique. Non, il essaye de faire quelque chose, sauf qu'on constate que depuis des années, ça dure. Et qu'un pays n'arrive pas à mettre un terme à ces genres de violences, à faire arrêter les gens, à recourir au procès, à se condamner et à dédommager, c'est qu'il y a un problème. Il y a un échec total.
Merci, Lancy Coco.
C'est moi qui vous remercie et bonne continuation.
Merci.
Informer sans déformer, juger sans passion, le journal des auditeurs pour faire bouger l'Afrique.
Pour commenter ce sommet de l'Union africaine qui se tient aujourd'hui, qui s'ouvre aujourd'hui à Malabo en Guinée équatoriale, nos invités sont le professeur Yves Ekwe Amaizo, consultant international. Bonjour professeur, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends, bonjour.
Bonjour. Alors, le thème retenu à l'occasion de ce sommet, c'est la jeunesse africaine, bon sujet, j'ai envie de dire, qui décide du choix des thématiques et qu'est-ce qu'il faut en attendre, d'autant que on sent très bien qu'on ne pourra pas échapper au dossier très lourd, le dossier libyen.
Qui décide? Ce sont les chefs d'État, ils le font généralement soit 6 mois, soit 1 an avant l'échéance, mais vous savez toujours que quel que soit le choix du dossier, c'est l'actualité qui prévaut, et donc vous avez entièrement raison d'expliquer que le cas libyen va prendre le dessus. Mais il faut surtout dire autre chose, c'est-à-dire que les choix de ces sujets sont faits de telle manière qu'on évite l'essentiel. Quand on dit jeunesse, en fait, il faut préciser, il s'agit essentiellement du chômage des jeunes, et qui sont à plus de 70% dans la plupart des pays. Il s'agit le fait que l'éducation, l'université ne fonctionnent pas et qu'on envoie souvent des militaires, des forces répressives pour les empêcher de faire leurs assemblées générales, voire de prendre des décisions, et encore moins d'arriver à s'en sortir en termes d'emploi. Voilà le vrai problème. C'est-à-dire qu'on cherche des sujets sur lesquels il y a un faux consensus pour mieux éviter le vrai sujet des jeunes.
Alors, combien seront-ils justement à l'ouverture des travaux? Enfin, est-ce que vous pensez qu'ils seront tous là, les chefs d'État?
On sait déjà que le président Wade ne sera pas là, mais vous savez, le nombre qu'il soit là ou pas n'est pas si important. Ce qui est important, c'est que les délégations seront là. C'est quand même l'Union africaine, donc ils seront là. Ce qui pose vraiment problème aujourd'hui, et c'est le financement de l'Union africaine, parce que c'est un dossier qu'il faut toucher absolument. C'est-à-dire que il y a quelques temps encore, avant cette guerre en Libye ou ailleurs, sur le sol africain, c'était en gros la Libye, 30%, et l'Union européenne. Oui, financer l'Union africaine.
C'est quand même paradoxal.
Voilà le fond du débat, et que personne ne veut mettre sur la table. Et donc, tout le monde crie l'indépendance, je l'ai entendu plusieurs fois, mais en réalité, ce sont des étrangers qui financent l'Afrique, en tout cas, pas jusqu'à récemment. Et d'ailleurs, le sujet même est à l'ordre du jour, le financement de l'Union africaine. Oui. Il faut le savoir. Et derrière cela, il y a un autre problème. Ceux qui ont l'argent en Afrique, donc des Africains, des États africains, ben, ne mettent pas la main peut-être à la pâte, ou s'ils le mettent, alors
quand il y a des conditionnalités. Ah oui, il faut le mettre. D'accord.
La situation est difficile.
Alors, c'est vrai que le nombre de chefs d'État présents, c'est pas forcément le plus important. Mais ce que je vois, c'est que l'hôte de ce sommet, donc le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo, a prévu 52 villas présidentielles hein, pour ses pairs. Alors, c'est beaucoup d'argent. Si on n'arrive pas à financer l'Union africaine, cette institution, comment on arrive à recevoir en grande pompe 52 chefs d'État dans 52 villas présidentielles?
Je crois que c'est 54. Et 54, vous savez, il faut bien comprendre ce qui se passe. On parle d'indépendance. Je vous dis, moi, que l'Afrique et les chefs d'État africains, ils peinent, ils oublient de comprendre qu'il s'agit d'interdépendance africaine. Mmh. Et dans le cas de l'interdépendance africaine, ce que fait la Guinée équatoriale ou d'autres en Afrique, ce n'est même pas l'interdépendance qui est le fait de comprendre comment le monde global fonctionne, mais c'est de faire de l'inter-indépendance. Et ça répond à votre question. C'est-à-dire que on prend l'argent du pétrole, puisqu'on en a dans ce pays, et on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire un espace qui est d'ailleurs à 30 km, je crois, de la ville principale, avec une autoroute à 2x3 ou 6 voies. Et c'est-à-dire qu'on fait un truc spécial pour des chefs d'État. On se demande d'ailleurs comment, par la suite, on pourra rentabiliser tout ceci. Mais sur le fond du problème, et que, encore une fois, j'essaie de ramener la discussion, c'est que il n'y a pas de consensus aujourd'hui entre les chefs d'État sur le mot démocratie à l'africaine ou démocratie tout court. C'est toujours à géométrie variable, et cette conception à géométrie variable se discute à huis clos, donc il n'y a pas de transparence, et du coup, le problème de financement qui est lié à cela est fait que une fois on dit qu'un tel, Libye ou ailleurs, il n'y a pas de vérité des urnes, il faut qu'il parte, et d'ailleurs, ils peinent à trouver un consensus là-dessus, donc on se pose même la question s'ils ne vont pas finalement se séparer en étant, en gros, coupé en deux, hein, cette Afrique, une partie qui défend, en gros, l'OTAN, pour aller à l'essentiel, et une partie qui dit non, on va pouvoir s'en sortir autrement, et cette bagarre-là a commencé déjà au niveau des ministres des Affaires étrangères.
Alors, je vous propose d'écouter deux réactions concernant les sujets brûlants de l'heure.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Cher ami du JDA, je vous appelle pour manifester mon indignation par rapport à la Cour pénale internationale, aujourd'hui que j'estime la Cour des grands, enfin les pays occidentaux imposent d'une façon ou d'une autre à nous, pays pauvres, entre guillemets, leur loi en fait, c'est la loi du plus fort, parce que le mandat contre Kadhafi, c'est vraiment un mandat farfelu, tout le monde sait ce qui se passe là-bas en Libye, et on se pose la question, c'est pas, est-ce que ça n'a pas de rapport avec le fonds à l'Arabia, le fonds libyen d'investissement en Europe, aux États-Unis, partout, est-ce qu'on se pose la question, vraiment, est-ce qu'il n'y a pas une même, ils veulent mettre une même mise sur ce fond et ils sont en train de distraire l'opinion, distraire les Africains. Et moi, je pense que les Africains doivent ouvrir les yeux et doivent faire très, très attention. Et surtout les chefs d'État africains, et aujourd'hui, qui laissent passer des choses comme ça. Et je me pose la question. Ils doivent vraiment, vraiment ouvrir les yeux et commencer à dénoncer ce genre de dérive des grandes puissances, parce que ça va continuer encore. La Côte d'Ivoire hier, la Libye aujourd'hui, demain ça sera un autre pays, ils vont décider de à qui ils vont faire l'achat. Donc vraiment il faut qu'ils ouvrent les yeux, que l'Union africaine prenne toutes ses responsabilités. Merci beaucoup, au revoir.
Allô, j'appelle à propos de l'État centrafricain. Il est temps que le peuple centrafricain se réveille et puisse voir quelles sont les réalités réelles après l'élection de Bozizé. Dans quel engrenages se sont mis. C'est rien inutile de dire quelqu'un dans les forêts de croire à amener le changement après Patassé. Nous pouvons constater que M. Zingas, ministre du Commerce, ministre, s'enrichit d'une manière illicitement. Il est en France, il s'achète plein de voitures, il est au-dessus de la loi. Il passera au Centrafrique sans avoir payé les douanes. Et pendant combien de temps peut-il résider en France? Il réside toujours en tant que ministre, en même temps en tant que réfugié politique. Il est réfugié politique de qui? Il a ce jour sa carte de réfugié politique avec lui. Il joue ce jour de double facette, en percevant l'ONU. Il est temps que le peuple centrafricain se réveille, que comme Zoumara arrive à la tête du pays, il faut régénérer la classe politique. Car les anciens ont trop travaillé. Ils sont ruinés d'une manière intellectuelle. Ils savent plus quoi faire du pays, sauf jouir de leur jouissance physique auprès de jeunes filles, en les abreuvant des sommes d'argent, comme Zingas le fait à Paris avec Bébé.
01 55 07 58 05 ou 00 33 1 55 07 58 05, si vous appelez d'Afrique ou d'ailleurs.
Alors, nous avons des réactions d'auditeurs. Malheureusement, nous ne pourrons pas vous prendre. Je vous invite à réagir sur notre répondeur. Je vous rappelle le numéro 01 55 07 58 05. Si vous appelez l'étranger, vous faites l'indicatif de la France 00 33 1. Professeur Yves Ekwe à Maïso, en deux minutes, en écoutant ces deux messages hein, d'auditeurs, il faut vraiment désespérer de l'Afrique.
Non, il faut surtout pas désespérer, il faut surtout comprendre. Il faut comprendre et transmettre de l'information. Il y a deux points qui ont été soulevés.
Oui.
L'indignation par rapport à la Cour pénale, et ça, je ne peux que partager ce que dit l'interlocuteur, mais je vais même plus loin sur le cas, justement, de Kadhafi ou d'autres, d'ailleurs. Il faut bien comprendre que ceux qui ont fait la guerre sur le sol africain, et des chefs d'État, Afrique du Sud, Gabon, Nigeria, qui ont voté la décision de le Conseil de sécurité pour faire la guerre sur le sol africain, ont en fait voté que toute la dépense de la guerre qui a été faite par ceux qui ont fait cette guerre sera payée par les Africains. Il ne faut pas vous tromper là-dessus. Le café, le cacao de Côte d'Ivoire et le pétrole de Côte d'Ivoire risquent de servir à payer d'abord les dépenses de guerre. Et si on ne fait pas attention avec les taux d'intérêt, ça peut aller sur plusieurs années. Alors mettez ça maintenant sur la Libye et vous allez voir que l'objectif, c'est non seulement de prendre les 150 et quelques tonnes, 1000 tonnes de d'or qui sont dans la Banque Centrale Libyenne, mais aussi l'essentiel du pétrole. Et à partir du moment où on a ça en vue, on peut se poser la question. Bien sûr qu'il faut que le président Kadhafi ou bien le guide Kadhafi puisse partir et son fils et tout son groupe, mais il faudrait que ce soit une décision libyenne. Il y a des systèmes libyens qui permettent cela et personne n'appuie ce système libyen de démocratie directe ou locale. La deuxième chose, c'est sur la Centrafrique et en gros sur l'enrichissement illicite en Afrique. Vous savez, la plupart des pays qui ont des difficultés aujourd'hui, on les voit, tous ceux qui tournent autour du régime, ils prennent l'argent, ils quittent le pays. On voit même des petits capitaines, des petits militaires, pour ne pas citer le Togo ou d'autres, qui viennent acheter des 4x4, et ça avec la sentiment d'ailleurs des gens de la diaspora qui facilitent cette sortie d'argent.
Oui.
Mais ils n'investissent pas dans le pays. Donc pour conclure rapidement, sur tous ces deux éléments, s'indigner bien sûr, mais il faut passer à autre chose. Qu'est-ce que nous pouvons faire individuellement en fait pour chacun de ces cas-là? Il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut trouver des moyens de s'organiser collectivement, soit dans la diaspora, soit avec les gens localement, et surtout de s'informer. Et je remercie encore Africa numéro 1 pour le travail qu'il fait d'information, en sachant d'ailleurs que avec justement la coupure des fonds de Kadhafi, une bonne partie de ce que dit Africa numéro 1 ne va pas en Afrique de l'Ouest ou dans d'autres parties de l'Afrique.
Merci professeur Yves Ekwe à Maïso. Bonne fin de journée à vous tous sur Africa numéro 1. Je vous rappelle que vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en podcast sur notre site www.africa1.com. Bonne fin de journée.